la vie.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le goût du monde. Aujourd'hui, nous sommes en voyage sur une route comme aucune autre. Elle file le long de la Méditerranée, dans les parfums et le chahut des villes, du Caire à Damas, de Gaza à Nazareth, de Tel Aviv à Saint-Jean-d'Acre, jusqu'à Beyrouth. Oui, vous avez entendu, toutes ces villes-là, nous allons les jalonner. Cette route, c'est un voyage ou bien un rêve, une utopie en tout cas, nourrie de rencontres, de saveurs, de poèmes, de contes, d'histoires de grand-mère et de pois chiches verts. Cette route, au cœur du Moyen-Orient, suit une carte couchée sur le papier comme on fait un vœu en réalité, un livre à la couverture dorée sur laquelle il est écrit « Voyage sur la route du Houmous, de ville en rencontre ». En rêve. Bonjour Dan.
Bonjour Clémence.
Dan Alexander, vous êtes l'un des auteurs de ce livre dont je viens de parler, à cette couverture dorée, avec Ariel Rosenthal et Orly Pelli-Bronstein et une trentaine d'autres contributeurs. Vous vivez à Paris, où est implantée votre agence de design Dan Alexander & Co. Les bons voyages, on le sait, hein, se savourent à plusieurs et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à vos côtés, ou en face de vous, très concrètement, se trouve un de vos amis aujourd'hui, un cuisinier. Bonjour Karim Aïda.
Bonjour Clémence.
Alors c'est incroyable parce que vous m'avez dit il y a quelques minutes, il y a 2 ou 3 ans on va dire, peut-être au tout début de l'histoire de ce livre, on aurait difficilement pu imaginer se retrouver autour d'une table comme celle-ci dans un studio un jour. Est-ce que vous pouvez me raconter peut-être le tout début de ce livre, Dan Alexander?
Oui, c'est bizarre, mais notre voyage imaginaire a commencé là, à Paris. Et vous connaissez peut-être les blagues à Palestiniens, à Libanais et à Israéliens entrés dans une bar. Mais pour nous, ce n'est pas le début d'une blague. C'est le début d'une histoire vraie qui raconte comment a commencé notre voyage imaginaire. Et donc, café est à côté de Louvre. C'était un café très élégant et très silencieux. Nous étions là. C'était très sympa. Et petit à petit, on a et arriver à le sujet plus chaud du Moyen-Orient. Le sujet qui arrive avec beaucoup de tension, et peut-être c'est ça la raison de tension du Moyen-Orient, c'est combien de tahini vous mettre dans le houmous.
Combien de tahini, c'est-à-dire cette purée de sésame, on va mettre dans ce houmous. Ça, c'est un sujet éternel de débat.
Oui.
Et donc?
Alors, comme vous pouvez imaginer, et nous étions les gangs des Moyen-Orient dans un bar très élégant et très silencieux. Et petit à petit, c'est devenu moins silencieux et moins élégant. Et il y a beaucoup de bruit et là-bas et beaucoup de drôles, bien évidemment. Et c'était là que j'ai réalisé qu'il y a ce sujet et il va être très intéressant par livre. Parce que c'est le sujet très intéressant au Moyen-Orient. Et maintenant, quelques années après, nous sommes là avec le livre de 140 pages qui est écrit par les personnalités des mondes de la culture, de la cuisine, des sciences, unis pour la première fois pour parcourir les capitales des houmous au Moyen-Orient. Et comme tu dis, c'est le Caire, Damas, Gaza, Jaffa, Tel Aviv, Nazareth, Jérusalem, Saint-Jean-d'Acre, Beyrouth. C'est incroyable qu'on pouvait faire des choses comme ça.
Et en fait, c'est ça qui est presque émouvant. Parce que quand on cite cette route-là, on a l'impression, quand on en parle comme ça, que c'est une route facile à emprunter, mais c'est une route quasiment impossible à emprunter aujourd'hui, Karim Aïda. Vous y étiez à cette réunion, cette première réunion?
Oui. J'étais un des éléments j'étais le Libanais de service, on va dire, de cette réunion-là. Voilà. Mais effectivement, c'est très important de se rendre compte que c'est une région qui finalement n'est pas très grande, cette route n'est pas très longue. Ce qu'on ne sait pas, parce que dans cette région où justement on ne peut pas circuler, un jour j'avais un ami qui était tout simplement dans le nord, dans l'extrême nord d'Israël. Et moi, j'étais à Beyrouth en même temps et il m'a parlé. Et on s'est dit que c'est quand même fou de se retrouver dans la même région, puisque tous deux Parisiens, à 70 km de distance, et de ne pas pouvoir se voir. Mmh. Et c'est une région qui est découpée en petits morceaux. Une autre fois, j'ai emmené avec moi, pour la première fois, quelqu'un du Liban, traverser la France en TGV, pendant 3 heures, et vous savez qu'on va très loin en 3 heures en France. Et lorsque je lui expliquais à l'arrivée qu'on était arrivé au Caire, en distance de Beyrouth au Caire, et même un peu plus loin, il m'a regardé bizarrement. Et c'est vrai que ces distances qu'on a, qui pour nous ne sont rien, ici en France ou en Europe, au fond, les distances, on arrive à les surmonter par la technologie, par nos volontés. Et là-bas, en fait, les distances sont allongées par, souvent, la folie des hommes. Et ce que je trouve beau dans la participation à ce livre, c'est justement l'idée de ce rêve et de cette utopie derrière, qui est d'imaginer un monde sans la folie, autour, finalement, de choses qui rassemblent.
Et du hummus. Alors, juste pour préciser, le hummus, c'est un double terme. Comme en France, quand on parle du couscous, on parle du plat et on parle également de la graine. Et le hummus, en fait, et c'est ça qui est magique, c'est que ce soit en arabe ou en hébreu, on utilise le même terme pour parler du pois chiche. Ce sera hummus comme de la purée que l'on connaît avec le tahiné. Je ne me trompe pas ?
C'est la purée et c'est la graine.
Et c'est la graine.
Oui, 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 et c'est la graine de pois chiche. Et c'est avant tout la graine de pois chiche, puisque on a simplifié le mot hummus en utilisant le mot hummus pour dire la purée. La purée s'appelle hummus b'tahiné, puisque c'est du hummus avec de la tahiné, justement, d'où le débat sur la quantité de tahiné dans
de tahiné dans le hummus. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous l'avez dit, Dan, il y a une trentaine de personnes qui participent de tous horizons. Alors, on a des anthropologues, des poètes, des philosophes, des cuisiniers, des musiciens, de jeunes étudiants également qui ont participé à ce livre. Quels sont les mots qui ont fait qu'ils vous ont dit oui?
Je pense que les mots étaient le cœur. Et aussi, je pense que tous les gens que je vois et je vois qui étaient touchants par les livres, c'est les gens qui sont cœur qui parlent.
Avec le cœur qui parle.
Oui.
Les émotions et le cœur avant tout.
Oui. Parce que cet livre, bien évidemment, c'est pas juste un livre de recettes. Mais c'est un livre qui touche à la mythologie et qui désirait envoyer un message de paix. Alors il y a des gens qui immédiatement nous joindre, il y a des gens qui, même pour moi,
qui ont claqué un peu la porte.
Oui.
Ça n'a pas toujours été évident. Oui. Ce que je vous propose à l'un et à l'autre, c'est qu'on va l'emprunter, cette route. Et justement, on va prendre ce train qui fait ses 300 km pour aller jusqu'au Caire. Nous allons donc partir au Caire. Nous sommes donc au sud, complètement au sud, avec ce sandwich de fèves si emblématique, compté par l'anthropologue Claudia Roden dans un texte qu'elle a appelé « The Wandering Kitchen ». Alors « wander », en anglais, ça veut dire une cuisine nomade en réalité, où elle raconte sa famille et donc l'histoire de sa famille au Caire, en Égypte, et de la manière aussi dont elle a quitté ce pays d'Égypte à un moment, et de ses souvenirs liés à ce sandwich de fèves blanches qui s'appelle le tahmiya, dont elle donne la recette, parce que c'est aussi un livre où on peut trouver des recettes. Et c'est un souvenir que partage avec elle l'ethnopsychiatre franco-égyptien Toby Nathan.
C'est le plat national, je veux dire, dans le sang de tout Égyptien, il y a du foul. Foul, c'est en effet la fève, mais c'est des fèves préparées de manière particulière. Enfin, c'est les fèves d'Égypte, quoi. C'est la nourriture fondamentale du peuple d'Égypte. Moi, j'en ai un souvenir très fort parce que quand ma mère faisait ce plat-là, c'était la fête. C'était souvent le samedi matin et elle accueillait des gens de la famille et on mangeait ça le matin, au petit déjeuner. Hein. De toute façon, on dit que le foul vaut mieux le manger le matin. Donc c'est un plat très, très nourrissant. Mais c'est surtout que pour moi, c'est le plat du peuple. Et moi, j'étais souvent cantonné à la maison ou à l'école. Et quand je pouvais m'échapper dans la rue, je voyais ça se vend dans la rue, quoi. Et la nourriture de la rue a pas le même goût, quoi. Pourtant, c'est la même, hein, je veux dire, mais ça a pas le même goût. Ça a un côté sauvage, comme ça. Et pour moi, c'est resté ce goût-là, de cette nourriture de la rue. Et donc, ce sont des fèves qu'on a séchées. Et ces fèves-là, on les appelle foul. Mais le mot mesdames, c'est pas de l'arabe. Ça provient probablement du copte. Et ça signifie « cuit à l'étouffer ». C'est à la fois une soupe, une purée, des légumes, c'est tout ça à la fois, et puis on en fait des sandwichs. Et donc on les mélange avec des œufs durs, on rajoute des tomates, du fromage blanc, des concombres, du citron, et on mange ça, donc on met ça dans un sandwich, et on mange ça d'une main, et de l'autre main on tient un oignon cru. Et donc on croque dans l'oignon, et hop, on croque dans le sandwich de fèves. Mais ça, cette chose-là, ça a un goût, surtout quand c'est pris dans la rue, c'est génial. Et donc on mange des fèves, avec des fèves en fait, parce que accompagné à ça, on fait des beignets de fèves en fait, qui s'appellent tarmeilla. C'est des fèves vertes, mais concassées, qui sont mélangées avec du coriandre, beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, du piment aussi, c'est mieux. Ça fait une sorte de pâte, comme ça, qu'on fait frire. Et donc, on mange le foule avec de la tarmeille, c'est-à-dire des fèves bouillies avec des fèves frites. Et ça, c'est le plat parfait. Et c'est bizarre comment cette nourriture, qui est une nourriture ancestrale, est restée la marque de l'Égypte, en fait, hein. Les Égyptiens sont constitués de foule.
Toby Nathan, Dan Alexander, co-auteur du livre, vous disiez que le photographe qui a réalisé les photos de tarmeilla dans le livre n'a jamais mangé un falafel de pois chiche.
Non, et cet photographe, il s'appelle Yahya Diwar. Et moi, j'ai cherché beaucoup de photographes, etc., qui ne voudraient pas travailler avec nous. Bien évidemment, parce qu'il était peur de travailler avec ex-israélien. Mais lui, je l'ai trouvé et j'ai trouvé incroyable photo qu'il a pris. Je l'ai contacté, il me dit immédiat oui. Et alors après, il m'a dit, moi, je ne connais pas les tarmeilla des pois chiches. Et après, il a pris les tarmeilla des pois chiches. Il m'a dit, c'est comme les drogues, je ne peux pas arrêter maintenant.
J'ai fait plus mon passé. Oui. C'est un falafel de fèves, en réalité, le tarmeilla, du coup ?
En fait, c'est un falafel de fèves. Le falafel tel que nous, on le connaît, c'est-à-dire au nord de l'Égypte, est un mélange de pois chiches et de fèves. Et a priori, on considère que l'origine de ce produit, c'est la tarmeilla, avant le falafel. Mais bien sûr, bah, quand il est remonté vers le nord, et notamment vers la ville suivante, je pense, de la route, c'est-à-dire Gaza. Gaza, c'est le pays du pois chiche et je pense que c'est un peu à la frontière que pour le faire rentrer, on l'a marié au pois chiche pour en faire du falafel. Et c'est ce falafel qui s'est développé. Alors, c'est vrai qu'en Égypte, c'est la tarmeilla, mais malheureusement, je dirais, non pas gustativement, parce que je trouve que le falafel, personnellement, plus intéressant, mais c'est peut-être une question d'habitude. Mais en Égypte, en fait, malheureusement, aujourd'hui, on trouve presque plus de tarmeilla. En tout cas, dans les rues, on trouve surtout du falafel.
Et le foule medamnes ?
Alors, le foule medamnes, là, pour le coup, ce sont des fèves. C'est un ragoût de fèves avec des pois chiches dedans, mais qui sont ensuite, une fois qu'ils sont cuits, ils sont écrasés, alors mélangés suivant les endroits, avec de l'oignon, de la tomate, de la menthe, du persil, de l'huile, du cumin, de l'ail. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, un petit citron? Et là, actuellement, comme c'est la saison de l'orange amère, ce qui est extraordinaire, c'est le foule medamnes où on remplace le citron par de l'orange amère. Et ça... Et là, ça, je salive d'ailleurs et je pense qu'il va falloir interrompre rapidement l'interview.
Donc la route se poursuit. On est arrivé à Gaza. Alors ce qui est formidable, c'est que dans votre livre, on arrive à Gaza en dégustant aussi un bol de koshari. C'est du riz avec du pois chiche, ce qui fait penser aussi à des racines indiennes où on mélange légumineuses et céréales. Et puis il y a l'histoire de ce jeune journaliste palestinien, c'est lui qui la raconte, de rituels du houmous du vendredi, qui sont vraiment comme une espèce de ritournelle où tous les vendredis, et qui donne toute sa place au houmous, qui est partagé, fait par sa mère, comme un souvenir également, sa mère qui a été réfugiée dans un camp en Syrie, et dont elle dit, ce houmous du vendredi, c'est vraiment la mémoire que l'on partage. C'est un très beau moment. Quand on vous a raconté cette histoire, quelle a été votre réaction, Dan Alexander ?
Pour moi, les chapitres de Gaza, c'est les chapitres plus importants, plus touchants. Et dans le livre, dans cette photo, vous pouvez voir des photos inédites dans la rue, et à Gaza, et aussi à Beyrouth, à Damas. Et c'est vraiment un témoignage rare et personnel. Comme par exemple cette photo des enfants à Gaza qui sortent
récupérer
et qui achètent des
hummus
et des falafels, et qui s'appelle dans le livre « Les kebabs des pauvres ». Mais bien évidemment aussi, vous pouvez voir aussi un chapitre à Jérusalem, par exemple, et les juifs orthodoxes qui dansaient, qui chantaient, et qui mangeaient des hummus, ou plus exactement les pois chiches, et pour célébrer les naissances d'un petit garçon, pas petite fille, et c'est une autre chose. Et je pense qu'on montrait l'immense diversité des plats qui peuvent être créés à partir d'un simple grain, et les plus anciens maîtres premières du monde.
Oui, la première, la plus ancienne, en fait, oui. Matière première que l'on puisse trouver. C'est un vrai réconfort, ce pois chiche, cette espèce de graine essentielle.
Et goûteuse.
Et goûteuse. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'avec toutes ces photos, on se rend compte de sa dimension totalement accessible à tous. Il n'y a plus de frontières entre les riches, les pauvres, tout le monde se réunit, tout le monde partage. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et du coup, il y a plein de photos très gaies. C'est la vie, ce livre, Karim Haïdar.
Oui, quelque part, c'est la vie de ces régions. Mais quelque part, la gaieté qu'on voit, en tout cas, puisqu'on parle de Gaza, je pense qu'il faut se remémorer nécessairement, quand on parle de Gaza, la situation dramatique de Gaza. Et oui, c'est la vie, parce que quelque part, quand on met les gens dans des situations dramatiques, le peu qu'ils ont encore, qui est le minimum finalement, qui est, comme disait Dan tout à l'heure, le kebab du pauvre, le plat du pauvre, parce que c'est la seule chose qui reste disponible, eh bien, on devrait peut-être en prendre exemple dans nos sociétés un peu pourries, entre guillemets, de sourire de ces choses qu'on a, des petits bonheurs qu'on a. Et j'ai rarement vu des joies aussi éclatantes que dans les pays où l'on souffre. Parce que peut-être qu'on apprécie à sa juste valeur ce qu'on a, et que ce petit bol de pois chiche ou ce petit beignet de falafel, qui n'est pas grand-chose finalement, permet de faire et de dessiner des sourires tels que ceux-là.
Les Gaza, c'est une ville qui, je pense que le monde, il ne veut pas voir, il ne veut pas regarder. Et pour moi, c'était un challenge pour présenter ça. Et c'est grâce à Karim qui fait tous les contacts à Gaza, parce que les gens ne voudraient pas travailler avec moi. Mm. Et bien évidemment, je peux comprendre. Mais avec Karim, on a réussi et arrivé les gens à Gaza, les photographes, les journalistes. Et pour moi, c'est très touchant pour voir et pour montrer le monde qu'est-ce qui se passe à Gaza. Parce que c'est une ville qui... Nous sommes là... À confinement, il y a un an à peu près, mais là-bas, c'est confiné déjà 13 ans. Et je pense que c'est les choses qui le monde et qui nous, on doit être occupés avec. Et pour moi aussi, quelqu'un à New York ou à Philadelphia ou les gens qui partent tout le monde et m'a appelé et dit, ah, waouh, j'ai fait dans ton livre, j'ai fait les recettes de hummus à Gaza. Je me suis dit, OK, maintenant, il sait qu'est-ce qui se passe à Gaza. Alors, c'est comme un coffee table book, mais c'est caché beaucoup de secrets, mais beaucoup de secrets sociaux.
C'est toute la finesse de ce livre, en réalité.
Oui.
Complètement. De manière sous-jacente, en fait, on comprend tout. Et on peut décider de voir ou de ne pas voir. Et c'est toute la liberté qui est laissée avec ce livre.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Okay.
Imagine, John Lennon sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes sur la route d'un voyage imaginaire au Moyen-Orient, sur les pas du pois chiche, un houmous essentiel, trait d'union entre pauvres et riches, tous égaux, une fois une pita garnie de falafel à la main et un verre de thé ou bien de limonade dans l'autre. Cette route imaginaire est tracée avec une idée en tête d'Anne Alexander, vous qui êtes avec nous, co-auteur de ce livre, et Karim Haïdar, c'est qu'à l'aboutissement de ce voyage, ce soit un petit peu l'humanité et les échanges que l'on retienne comme un rêve éveillé. Je voudrais savoir si dans ce livre, vous aviez l'intention de parler d'un nouvel ordre social établi.
Vous savez, les houmous et les pois chiches, c'est devenu un symbole d'identité au Moyen-Orient et aussi un symbole de l'appropriation culturelle. Et bien entendu, c'est devenu aussi des chambres des mines sur laquelle tu n'es pas allé. Et pour moi, c'était donc important d'y aller. Et nous étions très occupés avec beaucoup de choses et à côté de cet sujet. Et finalement, je ne dis pas que le houmous va résoudre tous les problèmes du monde. Mais nous voudrions, avec ce livre, envoyer un message de nouvel ordre social et offrir un dialogue dans lequel chacun donnerait à l'autre les droits éthiques et pour moi très basiques de vivre dans une vraie égalité, d'aimer et de rêver. Et je pense que nous sommes là, avec ce livre, pour célébrer les différences et pour respecter les autres.
Quand on regarde ce livre également, on le voit jalonné d'histoires, des récits, des témoignages, des vrais partages en fait. Et ce que l'on retient, c'est la profonde humanité de ce qui est partagé. Et des prises de position également parfois. Je fais allusion, on est toujours à Gaza, au texte qui s'appelle « L'ange de Gaza » d'Anne Alexander.
Oui, et le philosophe Anna-Marie Ravitsky nous donnait le texte qui pour moi était comme les highlights des livres et qui m'a guidé sur cet voyage. Elle a choisi les peintures d'Adam et Ève à Éden et qui mangeaient des pommes et qui elle a écrit dans ce texte formidable Angels in Gaza et qui avec ça commençait notre voyage de choisir chaque jour entre le bien et le mal. Et qui, avec cette première péché et avec cette première bouchée, on a commencé à voir et regarder que chaque bouchée de nourriture arrive avec les questions de morale et d'éthique. Et moi, je pense que c'est très relevant.
Très significatif.
De notre livre et pour cet sujet. Parce que c'est... On peut dire, ok, c'est juste les pois chiches, c'est pas les houmous, mais c'est juste par ça. Et Anne-Marie Ravitsky écrit en ses essais, se rencontrer avec les darwish à Gaza. Il y a beaucoup d'années qu'il a rencontré les darwish à Gaza, qui étaient incroyables et qu'il, lui, l'a touché beaucoup, énormément. Et chaque fois qu'il a attendu des choses pas bien sur Gaza, son cœur frappé. Ça s'appelle aussi Angels in Gaza.
Angels in Gaza. Karim Haïdar.
En réalité, c'est que au-delà du pois chiche en tant que tel, en tant qu'aliment, même si c'est un aliment partagé, etc., et dans toute chose, finalement, il y a bien entendu un élément de morale ou d'éthique plutôt, parce qu'il y a un élément d'émotion, parce qu'il y a un élément d'humanité. Et que finalement, alors, dans le pois chiche, peut-être c'est plus fort et plus intéressant parce qu'il y a ce qui s'est passé dans cette région, ce qui continue à se passer dans cette région, ce qui se passera dans cette région. Mais qu'en réalité, il y a finalement, dans chaque geste et dans chaque aliment que l'on prend, alors je dirais aliment moi parce que je suis cuisinier, mais sinon geste en général, dans chaque activité que nous avons, il y a la même chose. On peut tout faire de manière superficielle et on peut toujours aller au fond des choses, au fond des émotions, au fond de l'humanité. Et si vous pensez, chaque personne a d'un côté sa Madeleine de Proust, mais chaque personne a aussi la petite chose qui l'a fait rêver, qui peut être pas grand-chose, mais qui au fond est essentielle pour elle. Et c'est ce partage de petites choses qui font l'humanité. Moi, c'est un petit peu ce que je comprends quand des petites choses qui se passaient à Gaza vont faire que Gaza devient important pour quelqu'un comme Anne-Marie et devient suffisamment important pour que ça soit comme un des battements de son cœur.
Si on quitte Gaza, et si on poursuit notre chemin, on va arriver à Jaffa, au sud de Tel Aviv. On découvre l'histoire qui relie deux des autres co-auteurs de livres. Je pense à Ariel et à Orly. Orly qui raconte comment la pita et le houmous sont pour elle comme le pain et le beurre, un peu l'alpha et l'oméga de son alimentation. Et Ariel à Tel Aviv, qui a le restaurant à Kossem, qui est une enfance qui est très troublante parce qu'elle est marquée par ce double sentiment d'avoir eu enfant physiquement fin, physiquement, et d'être émotionnellement affamé. Le fait de devenir cuisinier, c'était rendre aux autres en les nourrissant à son tour.
Je pense que oui, bien entendu, on ne devient jamais cuisinier par hasard, ou alors dans des circonstances assez tristes. On devient cuisinier parce que soit justement on a baigné dans la cuisine toute sa vie, soit parce que quelque part on se rattache à ce qui est... L'essence de l'humain reste quand même, enfin pour moi, mais on me considère souvent comme un peu rustre, l'essence de l'humain consiste à chasser, pêcher, cultiver pour manger. Donc en fait, et dans la nourriture, et dans le repas. Et quand on a vécu dans la privation de ce qui fait l'essence de l'humanité, c'est-à-dire manger, eh bien on a envie de transmettre cet élément très très important en cuisinant. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être le cas par rapport au texte tel qu'il est écrit par Ariel. Mais c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, lui et moi, donc je ne saurais pas le dire.
En tout cas, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à la lecture de ce livre, on découvre que dans certains endroits, sur cette route, on pensait le houmous complètement indispensable. Eh bien, on découvre que non. Quand j'ai eu la chance de recevoir Rin Tarboub, le mot houmous n'est pas du tout venu dans la conversation.
Franchement, tout le monde croit que nous, on mange que de hummus. Alors qu'on mange presque pas de hummus. On ne le fait pas. Ma grand-mère n'a jamais fait le hummus à la maison. Ce n'est pas un plat de maison. C'est un plat de street food, a cafeteria.
Rin Tarboub, qui est donc la palestinienne de votre livre. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est exactement la même histoire qu'elle raconte. Un dîner, elle arrive, elle a oublié le houmous. Figure-toi que le houmous, ce n'est rien par rapport à l'étendue de notre gastronomie. C'est essentiel aussi, cette parole-là, Dan Alexander.
D'abord, avec Rin, j'ai attendu l'histoire incroyable de son famille à Palestine, à El Khalil, à Nablus, etc. qui, pour moi, était très intéressante. Et c'est elle qui m'a dit, nous, notre famille, on ne mange pas les houmous. C'était drôle et je pense que son texte, son livre, il est incroyable par rapport à ça.
Très simple,
oui.
Très court,
oui.
Très
drôle, oui.
Très drôle aussi.
Ça donne quelque chose, oui, c'est vrai. Moi, c'est pareil. Je veux dire, je pense d'ailleurs que j'ai dû l'écrire dans le livre, que le houmous, pour moi, n'est pas un élément essentiel. Mais là, ce dont on parle, c'est le houmous botahine, donc cette purée de pois chiches que tout le monde connaît. Le livre, c'est le houmous dans le sens le pois chiche. Dedans, il y a par exemple les falafels. Et si vous demandez à qui vous voulez de Palestiniens, le falafel est une base, là, pour le coup, de l'alimentation, plus que la purée de pois chiche. C'est quelque chose qu'on mange le matin. Vous allez dans des échoppes, effectivement. C'est pas un plat de restaurant. On en fait rarement à la maison. Mais on va les acheter dans la petite échoppe, dans la rue. Et c'est une image extraordinaire où vous avez ces grandes poêles comme des wok, où vous avez quelqu'un qui fait des falafels, mais en centaines à l'heure, en les jetant dans l'huile, en les sortant, mais c'est véritablement, on a l'impression d'un prestidigitateur de falafel, et qui fait apparaître les falafels comme on ferait apparaître les petits pains ou des choses comme ça. Et donc le pois chiche, lui, est présent de plein de manières, et de manières qu'on a oubliées. Dans le livre, vous avez par exemple ce qu'on appelle, nous, la m'laibene, qu'on mangeait dans les rues, sur la corniche de Beyrouth, la saison où le pois chiche est encore vert. Vous aviez des marchands ambulants qui vendaient ça et on les ouvrait pour les manger. On croquait les pois chiches encore tendres, donc avant même qu'ils ne sèchent. Mais je vais vous dire un truc. Je pense que La plupart des gens qui mangent ça ne savent même pas que ce sont des pois chiches. Ils se disent c'est autre chose, c'est un autre produit. Il y a ces petits pois chiches sucrés, vous avez une photo magnifique dans le livre, ils sont blancs, roses,
sont
bleus,
bonbons,
etc. Et pour les gens, c'est des bonbons. Il y a des gens, ils ne savent pas que c'est du pois chiche. Et le pois chiche se retrouve aussi dans d'autres plats, dans des vrais plats cuisinés. Il est là au-delà d'une garniture, c'est pas simplement un accompagnement, c'est vraiment un produit essentiel du plat. Et ce produit est intéressant en tant que pois chiche. Donc c'est vrai que le hummus bouttahiné n'est pas un plat phare. Et on a sauté d'ailleurs Tel Aviv en parlant. Mais Tel Aviv est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'à Tel Aviv, et je pense que c'est essentiellement là-bas, qu'on considère le hummus comme un plat de résistance. Ailleurs, jamais on mangera un hummus en guise de plat de résistance. C'est un plat qu'on mange dans une échoppe rapidement le matin, avant d'aller travailler, qu'on mange en garniture d'une grillade, mais pas en guise de plat de résistance.
Et qu'est-ce qui fait cette différence à Tel Aviv alors ?
Ben, je sais pas pourquoi ils ont considéré que le hummus était le plat, était la base de l'alimentation, mais c'est le cas. Jamais on a donné autant d'importance, et c'est d'ailleurs le texte de Hind parle de ça, puisqu'il dit, au fond, le problème n'est pas nous, notre lien avec le hummus. On a l'impression les Israéliens qui mangent ce hummus, ce qui est très normal, chacun peut manger ce qu'il veut, mais se sont appropriés ce hummus, et c'est ça qu'on n'aime pas. Et d'un coup, la guerre du hummus a été déclenchée, parce qu'avant ça, il n'y a jamais eu de guerre du hummus. Tout le monde s'en fiche, bien sûr, on s'amuse à dire est-ce que le hummus est d'origine palestinienne ou libanaise ou syrienne, ou on s'en fiche complètement, finalement. Mais là, d'un coup, ça a créé une guerre qui n'existait pas, et qui fait, ce que disait Dan tout à l'heure, que finalement... Bon, moi, je suis mauvais parce que je mets les pieds dans le plat, mais ce projet de faire ce livre était un champ de mine, et qu'il s'y est engagé parce que c'était un champ de mine. Et il s'est engagé avec une agilité de danseur pour passer à travers et raconter une autre histoire. Mais je pense que c'est important quand même de dire ce qu'on s'est dit là.
Oui, pour moi, c'est intéressant parce que oui, comme tu disais, hummus à Moyen-Orient et aujourd'hui dans le monde, immédiatement, c'est sujet très explosif. Et moi, je voudrais pas aller à cette route. J'étais sûr qu'on va marcher dans les champs des mines. Avec ça, je m'en fiche. Mais je voudrais montrer un autre schéma. Parce que le schéma ancien, c'est le schéma qui arrive à la dead end.
C'est un statu quo, on ne s'en sortira jamais.
Oui, et avec cet livre, moi je voudrais aller autre route. C'est les routes de pardon. C'est les routes qui n'est pas les routes de l'oubli. Et au contraire, et c'est une route de souvenir. C'est une route d'une nouvelle identité qui s'est désignée par notre futur. Et je pense que notre route s'est créée par notre futur. Et pour moi, je ne veux pas aller à les identités et meurtrières, comme Amin Maalouf et dit. Je ne voudrais pas avoir peur de l'autre. Et au contraire.
Reconnaissance de l'autre.
Oui,
et
exactement.
En étant reconnu, on peut vraiment échanger.
Les Beyrouth. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم من رماد لبيروت أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا
Fairouz, Libère, Oturafi, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous voyageons sur la route du houmous depuis le début de cette émission avec ce pois chiche pour porter dans son enveloppe les rêves des siens avec Dan Alexander, co-auteur du livre Sur la route du houmous, publié aux éditions Magica, quelque part au Moyen-Orient. C'est ce qui est écrit sur le livre. Ça ne donne aucune identité à ce livre et ça permet un peu tous les rêves. Et cette chanson, Dan, c'est un cadeau que vous faites à Karim Haïdar qui est avec nous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson?
Et oui, le feu rouge, les goûts de feu, de fumée. Et c'est une ville, Beyrouth, c'est une ville inclure dans notre route de Houmous que je n'ai jamais visitée. Et je ne peux pas aller là-bas. Je peux y aller, mais je ne suis pas sûr de pouvoir revenir. Mais pourtant, j'ai trouvé un ami là-bas, Karim. Alors ça, c'est la raison que je voudrais dédicacer cette chanson à lui. Mais vous savez, pendant mes recherches pour le livre, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des informations sur les Houmous à Beyrouth, notamment parce que je suis ex-israélien. Mais finalement, quelqu'un m'a dit qu'il avait un chef d'origine libanaise et à Paris et qui s'appelle Karim Haïdar. Alors, je l'ai appelé et il m'a invité immédiatement à dîner chez lui. Alors, quand il a ouvert la porte, il m'a dit, immédiatement aussi, que la dernière fois qu'il avait vu un Israélien, il avait 11 ans. C'était un soldat israélien qui lui a demandé à se mettre face contre un mur et qui a tiré en l'air juste pour l'effrayer. Waouh! Il m'a demandé ce que je voulais faire maintenant. Et aussi, il fait une recherche Google pour voir ce qu'il risquait à participer à ce projet. Et... waouh, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, j'ai lui demandé s'il avait d'ouvert, parce que je vais en bouteille de whisky. Et on a commencé à boire, et on n'a jamais arrêté depuis. Je vais aussi aujourd'hui. Alors, et nous sommes devenus un très bon ami. Pour moi, c'est devenu aussi le symbole de ce livre. Car à la fin, c'est it's all about humanity. Il s'agit uniquement de l'humain. C'est personnel. C'est pas les drapeaux des pays, nationalités, etc. C'est juste personnel. Et depuis ça, c'est lui, il est sûr que c'est moi l'arabe, et moi, je suis sûr que c'est lui le juif. Parce qu'il est vraiment comme le, en yiddish, c'est la langue d'arrivée de l'Europe Est. Il y a les phrases qui tout dit à quelqu'un, il est Bachor Yeshiv, comme Yeshiv et Bucher. C'est quelqu'un qui l'étudie toujours. Et c'est lui, il est intellectuel, il est intéressant, il est drôle. Et pour moi, c'est vraiment devenu un très bon cadeau que j'ai reçu avec ce livre.
Vous avez réagi comment, Karim Haïdar, quand vous avez reçu le coup de fil de Dan Alexander, disait voici, j'aimerais vous rencontrer?
Un peu comme il l'a dit, je me suis posé plein de questions, je me suis remémoré plein de choses.
Vous avez hésité?
J'ai beaucoup hésité. En fait, non, à le recevoir, je n'ai pas hésité du tout, parce que je pense toujours qu'il faut savoir avant de décider quoi que ce soit, donc ça me semblait normal de le voir. Ça, pour moi, c'est une évidence, c'est une curiosité naturelle et un besoin de ne jamais juger a priori, de ne pas avoir de préjugés, justement. Mais j'ai beaucoup réfléchi ensuite, quand il m'a proposé de collaborer à ce livre, et je me suis d'ailleurs ouvert de cela à la plupart des personnes proches que je connaissais, qui pouvaient comprendre l'importance à la fois de... Vous savez, on cherche toujours les bonnes personnes pour chaque conseil. On ne cherche pas les mêmes, parce qu'il y a des gens qui ne comprendraient même pas qu'est-ce que je fais dans ce livre. Enfin, il y a des gens dont je connais les réponses avant même qu'ils ne réfléchissent. Et donc, j'ai cherché les personnes qui pouvaient à la fois comprendre le projet.
Pourquoi vous vouliez éventuellement y adhérer.
Voilà, et mais qui avaient l'intelligence de me donner un conseil. Et en fait, tout le monde m'a conseillé de ne pas y aller, de ne pas le faire. Et j'y étais quand même, et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, comme quoi j'ai bien fait d'y aller. Et je pense que j'aurais... En fait, ce que je disais, c'est que si je ne le faisais pas, au-delà de ce que je sais aujourd'hui, et de ma rencontre avec Dan, et de ce qu'on a vécu ensemble, au-delà de tout ça, je sais que avoir refusé de participer à ce livre qui aurait existé, peut-être un petit peu différemment, mais qui aurait existé, puisqu'il y aurait déjà moins dedans, et ben franchement, je serais très triste de ne pas avoir fait partie de ce livre, parce que, pour moi, je l'ai dit une ou deux fois, alors ça fait un peu sursauter, parce que c'est énorme d'une certaine manière. Je dis parfois que ce livre, pour moi, en fait, c'est un pas pour faire une humanité meilleure, à partir de quelque chose de très simple, qui est le pois chiche. Et je rajoute que si on faisait 1 million de pas comme celui-là, l'humanité serait vraiment meilleure. Et franchement, avoir participé, même un tout petit peu, à quelque chose d'aussi important, j'en suis très content, et je suis très content de ne pas avoir suivi les conseils pourtant très avisés de très bons amis, qui sont toujours de très bons amis, et qui d'ailleurs maintenant commencent à se dire que finalement j'ai peut-être pas eu tort.
Voilà, après avoir réfléchi. D'ailleurs, on vous a dit aussi, Dan Alexander, ce livre a reçu des prix, il y a eu beaucoup de critiques, positives et négatives. Comment est-ce qu'il a été appréhendé à sa sortie ?
Oui, d'abord, je voudrais dire quelque chose, des choses que Karim a dit, qui, pour moi, le livre, c'est par rapport à ça. C'est pour les gens, simplement. C'est son nationalité, son drapeau des pays, c'est juste les gens et les rêves. Et pour moi, l'identité, c'est l'esprit. Et l'identité arrivera des profondeurs de Dieu. Et elle s'est identifiée et à ses autres. Alors, nous sommes ensemble définis notre identité. Et je pense que les choses qui passent avec nous, qu'on peut redéfinir notre identité par rapport à ça. On a gagné beaucoup. Et par rapport aux réactions, et c'est Karim qui m'a dit aussi que si on va recevoir des attaques, cela voulait dire que le livre était réussi. Alors
il est réussi.
Oui. Oui. Alors, on a reçu pas mal de prix et aussi, énormément, inclure les premiers prix mondiaux, la Gourmand International Award 2020. Oui, oui. Et aussi, on a reçu les bénédictions du pape.
Du pape.
C'est très important aussi. Et bien entendu, des mines ont explosé, mais pour moi, j'ai mon fiche.
Ça y est, il y a une graine qui est plantée en tout
cas. Et je peux rajouter une petite chose, c'est que non seulement on a eu beaucoup de critiques et beaucoup de colère, mais ce qui prouve justement en réalité que ce projet est juste, c'est que les critiques viennent de tous les côtés.
Tout le monde est d'accord. Une seule humanité ensemble, pour critiquer ou pour approuver. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux. Alors, il semble presque futile de vous demander ce que j'ai l'habitude de demander en fin d'émission, à savoir un ingrédient et un ustensile. Et en même temps, au regard de cette émission, je pense que vos ingrédients et vos ustensiles seront peut-être un peu différents de ceux auxquels on pourrait s'attendre. Dan Alexander, votre ingrédient et votre ustensile.
Je peux dire les pois chiches, mais je ne vais pas dire ça. Et je vois porter les truffes. Des truffes. On a trouvé hier à notre champ à Dordogne,
à Périgord. Parce que vous vivez entre Paris et le Périgord.
Oui. Et nous avons des chambres des truffes, nous sommes truffiers. Alors, je vous emporter vraiment des truffes qu'on a trouvées, c'est les fins des saisons. Et c'est pour vous, alors.
Merci, c'est un cadeau.
Et pour moi, les truffes, c'est les choses incroyables. C'est notre émission. Et si je dois choisir aussi les
ustensiles,
excusez-moi, les couteaux, bien évidemment, mais si on parle par la truffe, je vais choisir la terre et le ciel.
Karim Haïda.
Eh bien, moi, en fait, Plus prosaïquement, hein, je vais pas aller jusqu'à la truffe, je vais penser justement au pois chiche, mais pas pour choisir le pois chiche, pour choisir en fait la graine de sésame comme ingrédient. La graine de sésame, pourquoi ? Parce que finalement, la purée de pois chiche, qui est quand même l'élément le plus connu du pois chiche, c'est le hummus botrine, donc fait avec la pâte de sésame, donc à partir de la graine de sésame. Et étonnamment, même le falafel, en fait, on met dessus des graines de sésame, on met dans la pâte des graines de sésame et on le trempe dans une sauce à la pâte de sésame aussi. Et on a l'impression qu'en réalité, ce pois chiche ne peut pas tout à fait vivre, tout à fait se développer, tout à fait se sublimer sans cette graine de sésame. Alors j'aime bien l'idée de cette graine de sésame. Et Dan et moi, on a une autre raison, mais personnelle, de penser à cette graine de sésame.
Qui vous pouvez pas dire.
Non, j'ai dit personnel. Ça regarde personne.
On ne saura pas.
Et l'instrument, là, je penserais à quelque chose pour revenir un peu en arrière. C'est tout simplement le pilon et le mortier. Parce que le hummus, comment vouliez-vous le faire avant? Quand il n'y avait pas de robot, quand il n'y avait rien. Rien d'électrique, rien de mécanique. Il fallait vraiment avoir un pilon et un mortier. Et après avoir fait cuire les pois chiches, eh ben, il fallait les écraser. Tac, tac. Et ça, je trouve ça impressionnant. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu.
Merci à tous deux pour ce voyage. Un peu étonnant. En tout cas, vous savez, et l'un et l'autre dire très bien les choses. Et très clairement, Sur la route du houmous, c'est signé Dan Alexander, Ariel Rosentam, Orly Pelli-Bronstein et Karim Haïdar, parmi la trentaine de contributeurs, photographes, poètes, anthropologues, cuisiniers, étudiants rêveurs. Karim, on peut goûter évidemment un peu de houmous avec du tahiné dans votre boutique Les Mots et le Ciel, c'est rue Olivier de Serres à Paris, mille merveilles. Merci à tous deux, merci à vous de nous avoir accompagnés dans ce voyage qui est profondément et tout simplement humain, je crois. Merci à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde ce goût du monde. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs.